Chapitre 68. Le procès. Le lendemain, une garde nombreuse conduisait Charles Ier devant la haute cour qui devait le juger. La foule envahissait les rues et les maisons voisines du palais. Aussi, dès les premiers pas que firent les quatre amis, ils furent arrêtés par l'obstacle presque infranchissable de ce mur vivant. Quelques hommes du peuple, robustes et hargneux, repoussèrent même Aramis si rudement que Porthos leva son poing formidable et le laissa retomber sur la face farineuse d'un boulanger, laquelle changea immédiatement de couleur et se couvrit de sang, et cachée qu'elle était comme une grappe de raisin mûr. La chose fit grande rumeur. Trois hommes voulurent s'élancer sur Porthos. Mais Athos en écarta un, D'Artagnan l'autre, et Porthos jeta le troisième par-dessus sa tête. Quelques Anglais, amateurs de pugilat, apprécièrent la façon rapide et facile avec laquelle avait été exécutée cette manœuvre et battirent des mains. Peu s'en fallut alors qu'au lieu d'être assommés, comme ils commençaient à le craindre, Porthos et ses amis ne fussent portés en triomphe. Mais nos quatre voyageurs, qui craignaient tout ce qui pouvait les mettre en lumière, parvinrent à se soustraire à l'ovation. Cependant, ils gagnèrent une chose à cette démonstration herculéenne, c'est que la foule s'ouvrit devant eux et qu'ils parvinrent au résultat qui, un instant auparavant, leur avait paru impossible, c'est-à-dire à aborder le palais. Tout Londres se pressait aux portes des tribunes. Aussi, lorsque les quatre amis réussirent à pénétrer dans l'une d'elles, trouvèrent-ils les trois premiers bancs occupés. Ce n'était que demi-mal pour des gens qui désiraient ne pas être reconnus. Ils prirent donc leur place, fort satisfaits d'en être arrivés là, à l'exception de Porthos, qui désirait montrer son pourpoint rouge et ses chausses vertes, et qui regrettait de ne pas être au premier rang. Les bancs étaient disposés en amphithéâtre, et de leur place, les quatre amis dominaient toute l'assemblée. Le hasard avait fait justement qu'ils étaient entrés dans la tribune du milieu et qu'ils se trouvaient juste en face du fauteuil préparé pour Charles Ier. Vers 11 heures du matin, le roi parut sur le seuil de la salle. Il entra, environné de gardes, mais couvert et l'air calme, et promena de tous côtés un regard plein d'assurance, comme s'il venait présider une assemblée de sujets soumis et non répondre aux accusations d'une cour rebelle. Les juges, fiers d'avoir un roi à humilier, se préparaient visiblement à user de ce droit qu'ils s'étaient arrogé. En conséquence, un huissier vint dire à Charles Ier que l'usage était que l'accusé se découvrit devant lui. Charles, sans répondre un seul mot, enfonça son feutre sur sa tête, qu'il tourna d'un autre côté. Puis, lorsque l'huissier se fut éloigné, il s'assit sur le fauteuil préparé en face du président, fouettant sa botte avec un petit jonc qu'il portait à la main. Perret, qui l'accompagnait, se tint debout derrière lui. D'Artagnan, au lieu de regarder tout ce cérémonial, regardait Athos, dont le visage reflétait toutes les émotions que le roi, à force de puissance sur lui-même, parvenait à chasser du sien. Cette agitation d'Athos, l'homme froid et calme, l'effraya. J'espère bien, lui dit-il en se penchant à son oreille, que vous allez prendre exemple de sa majesté et ne pas vous faire sottement tuer dans cette cage. Soyez tranquille, dit Athos. Ah ah, continua d'Artagnan, il paraît que l'on craint quelque chose, car voici les postes qui se doublent. Nous n'avions que des pertuisanes, voici des mousquets. Il y en a maintenant pour tout le monde. Les pertuisanes regardent les auditeurs du parquet, les mousquets sont à notre intention. 30, 40, 50, 70 hommes, dit Porthos en comptant les nouveaux venus. Eh, dit Aramis, vous oubliez l'officier, Porthos. Il vaut cependant, ce me semble, bien la peine d'être compté. Oui, da, dit D'Artagnan, et il devint pâle de colère, car il avait reconnu Mordante, qui, l'épée nue, conduisait les mousquetaires derrière le roi, c'est-à-dire en face des tribunes. « Nous aurait-il reconnu ?» continua D'Artagnan. « C'est que, dans ce cas, je battrai très promptement en retraite. Je ne me soucie aucunement qu'on m'impose un genre de mort et désire fort mourir à mon choix. Or, je ne choisis pas d'être fusillé dans une boîte. Non, dit Aramis, il ne nous a pas vus. Il ne voit que le roi. Mordieu, avec quels yeux il regarde l'insolent! Est-ce qu'il haïrait sa majesté autant qu'il nous hait nous-mêmes? Pardieu, dit Athos, nous ne lui avons enlevé que sa mère, nous, et le roi l'a dépouillé de son nom et de sa fortune.
C'est juste, dit Aramis.
Mais silence, voici le président qui parle au roi.
En effet, le président Bradshaw interpellait l'auguste accusé.
Tuart, lui dit-il, écoutez l'appel nominal de vos juges et adressez au tribunal les observations que vous aurez à faire.
Le roi, comme si ses paroles ne s'adressaient point à lui, tourna la tête d'un autre côté. Le président attendit, et comme aucune réponse ne vint, il se fit un instant de silence. Sur 163 membres désignés, 73 seulement pouvaient répondre, car les autres, effrayés de la complicité d'un pareil acte, s'étaient abstenus.
« Je procède à l'appel, » dit Bradshaw, sans paraître remarquer l'absence des 3/5 de l'assemblée. Et il commença à nommer les uns après les autres les membres présents et absents. Les présents répondaient d'une voix forte ou faible, selon qu'ils avaient ou non le courage de leur opinion. Un court silence suivait le nom des absents, répété deux fois. Le nom du colonel Fairfax vint à son tour et fut suivi d'un de ces silences courts mais solennels qui dénonçaient l'absence des membres qui n'avaient pas voulu personnellement prendre part à ce jugement.
« Le colonel Fairfax !» répéta Bradshaw.
« Fairfax ?» répondit une voix moqueuse qu'à son timbre argentin on reconnut pour une voix de femme. « Il a trop d'esprit pour être ici !»
Un immense éclat de rire accueillit ces paroles, prononcées avec cette audace que les femmes puisent dans leur propre faiblesse, faiblesse qui les soustrait à toute vengeance.
« C'est une voix de femme !» s'écria Aramis. « Ah, par ma foi, je donnerais beaucoup pour qu'elle fût jeune et jolie !»
Et il monta sur le gradin pour tâcher de voir dans la tribune d'où la voix était partie.
« Sur mon âme !» dit Aramis, « elle est charmante ! Regardez donc, D'Artagnan, tout le monde la regarde, et malgré le regard de Bradshaw, elle n'a point pâli. »
« C'est Lady Fairfax elle-même, dit D'Artagnan. Vous la rappelez-vous, Porthos? Nous l'avons vue avec son mari chez le général Cromwell. »
Au bout d'un instant, le calme soulevé par cet étrange épisode se rétablit, et l'appel continua.
« Ces drôles vont lever la séance quand ils s'apercevront qu'ils ne sont pas en nombre suffisant, dit le comte de la Fère.
Vous ne les connaissez pas, Athos. Remarquez donc le sourire de Mordaunt. Voyez comme il regarde le roi. Ce regard est-il celui d'un homme qui craint que sa victime lui échappe? Non, non, c'est le sourire de la haine satisfaite, de la vengeance sûre de s'assouvir. Ah, basilic maudit, ce sera un heureux jour pour moi que celui où je croiserai avec toi autre chose que le regard.
Le roi est véritablement beau, dit Porthos. Et puis voyez, tout prisonnier qu'il est, comme il est vêtu avec soin. La plume de son chapeau vaut au moins 50 pistoles. Regardez-la donc, Aramis !»
L'appel achevé, le président donna ordre de passer à la lecture de l'acte d'accusation. Athos pâlit. Il était trompé encore une fois dans son attente. Quoique les juges fussent en nombre insuffisant, le procès allait s'instruire. Le roi était donc condamné d'avance.
« Je vous l'avais dit, Athos, dit D'Artagnan en haussant les épaules, mais vous doutez toujours. Maintenant, prenez votre courage à deux mains et écoutez, sans vous faire trop de mauvais sang, je vous prie, les petites horreurs que ce monsieur en noir va dire de son roi, avec licence et privilège. »
En effet, jamais plus brutale accusation, jamais injure plus basse, jamais plus sanglant réquisitoire n'avait encore flétri la majesté royale. Jusque-là, on s'était contenté d'assassiner les rois, mais ce n'était du moins qu'à leur cadavre qu'on avait prodigué l'insulte. Charles Ier écoutait le discours de l'accusateur avec une attention toute particulière, laissant passer les injures, retenant les griefs, et quand la haine débordait trop, quand l'accusateur se faisait bourreau par avance, il répondait par un sourire de mépris.
C'était, après tout, une œuvre capitale et terrible que celle où ce malheureux roi retrouvait toutes ses imprudences changées en guet-apens, ses erreurs transformées en crimes. D'Artagnan, qui laissait couler ce torrent d'injures avec tout le dédain qu'elle méritait, arrêta cependant son esprit judicieux sur quelques-unes des inculpations de l'accusateur. « Le fait est, dit-il, que si l'on punit pour imprudence et légèreté, ce pauvre roi mérite punition. Mais il me semble que celle qu'il subit en ce moment est assez cruelle. » « En tout cas, répondit Aramis, la punition ne saurait atteindre le roi, mais ses ministres, puisque la première loi de la Constitution est « Le roi ne peut faillir ». Pour moi, pensait Porthos en regardant Mordaunt et ne s'occupant que de lui, si ce n'était troubler la majesté de la situation, je sauterais de la tribune en bas, je tomberais en trois bonds sur M. Mordaunt que j'étranglerais. Je le prendrais par les pieds et j'en assommerais tous ces mauvais mousquetaires qui parodient les mousquetaires de France. Pendant ce temps-là, D'Artagnan, qui est plein d'esprit et d'à-propos, trouverait peut-être un moyen de sauver le roi. Il faudra que je lui en parle. Quant à Athos, le feu au visage, les poings crispés, les lèvres ensanglantées par ses propres morsures, il écumait sur son banc, furieux de cette éternelle insulte parlementaire et de cette longue patience royale, et ce bras inflexible, ce cœur inébranlable, s'était changé en une main tremblante et un corps frissonnant. À ce moment, l'accusateur terminait son office par ces mots. « La présente accusation est portée par nous au nom du peuple anglais. » Il y eut à ces paroles un murmure dans les tribunes, et une autre voix, non pas une voix de femme, mais une voix d'homme, mâle et furieuse, tonna derrière D'Artagnan. « Tu mens !» s'écria cette voix, « et les 9/10 du peuple anglais ont horreur de ce que tu dis !» Cette voix était celle d'Athos, qui, hors de lui, debout, le bras étendu, interpellait ainsi l'accusateur public. À cette apostrophe, roi, juge, spectateur, tout le monde tourna les yeux vers la tribune où étaient les quatre amis. Mordaunt fit comme les autres et reconnut le gentilhomme autour duquel s'étaient levés les trois autres Français, pâles et menaçants. Ses yeux flamboyèrent de joie. Il venait de retrouver ceux à la recherche et à la mort desquels il avait voué sa vie. Un mouvement furieux appela près de lui 20 de ses mousquetaires et, montrant du doigt la tribune où étaient ses ennemis, « Feu sur cette tribune » dit-il. Mais alors, rapide comme la pensée, D'Artagnan saisissant Athos par le milieu du corps, Porthos en portant Aramis, sautèrent à bas des gradins, s'élancèrent dans les corridors, descendirent rapidement les escaliers et se perdirent dans la foule. Tandis qu'à l'intérieur de la salle, les mousquets abaissés menaçaient 3 000 spectateurs, dont les cris de miséricorde et les bruyantes terreurs arrêtèrent l'élan déjà donné au cardage. Charles avait aussi reconnu les quatre Français. Il mit une main sur son cœur pour en comprimer les battements, l'autre sur ses yeux pour ne pas voir égorger ses fidèles amis. Mordaunt, pâle et tremblant de rage, se précipita hors de la salle, l'épée nue à la main, avec 10 hallebardiers, fouillant la foule, interrogeant, haletant, puis il revint sans avoir rien trouvé. Le trouble était inexprimable. Plus d'une demi-heure se passa sans que personne pût se faire entendre. Les juges croyaient chaque tribune prête à tonner. Les tribunes voyaient les mousquets dirigés sur elles et, partagées entre la crainte et la curiosité, demeuraient tumultueuses et agitées. Enfin, le calme se rétablit. « Qu'avez-vous à dire pour votre défense ?» demanda Bradshaw au roi. Alors, du ton d'un juge et non de celui d'un accusé, la tête toujours couverte, se levant, non point par humilité mais par domination, « Avant de m'interroger, dit Charles, répondez-moi. J'étais libre à Newcastle. J'y avais conclu un traité avec les deux chambres. Au lieu d'accomplir de votre part ce traité que j'accomplissais de la mienne, vous m'avez acheté aux Écossais. Pas cher, je le sais, et cela fait honneur à l'économie de votre gouvernement. Mais, pour m'avoir payé le prix d'un esclave, espérez-vous que j'ai cessé d'être votre roi ? Non pas. Vous répondre serait l'oublier. Je ne vous répondrai donc que lorsque vous m'aurez justifié de vos droits à m'interroger. Vous répondre serait vous reconnaître pour mes juges, et je ne vous reconnais que pour mes bourreaux. » Et, au milieu d'un silence de mort, Charles, calme, hautain et toujours couvert, se rassit sur son fauteuil. « Que ne sont-ils là, les Français ?» murmura Charles avec orgueil et en tournant les yeux vers la tribune où ils étaient apparus un instant. « Ils verraient que leur ami, vivant, est digne d'être défendu, mort d'être pleuré. » Mais il eut beau sonder les profondeurs de la foule et demander en quelque sorte à Dieu ses douces et consolantes présences, il ne vit rien que des physionomies hébétées et craintives. Il se sentit aux prises avec la haine et la férocité. « Eh bien, dit le président, voyant Charles décidé à se taire invinciblement, « soit, nous vous jugerons malgré votre silence. Vous êtes accusé de trahison, d'abus de pouvoir et d'assassinat. Les témoins feront foi. Allez, et une prochaine séance accomplira ce que vous refusez à faire dans celle-ci. » Charles se leva et, se retournant vers Perry, qu'il voyait pâle et les tempes mouillées de sueur, « Eh bien, mon cher Perry, lui dit-il, qu'as-tu donc, et qui peut t'agiter ainsi ?»« Oh, sire, dit Perry, les larmes aux yeux et d'une voix suppliante, sire, en sortant de la salle, ne regardez pas à votre gauche. »« Pourquoi cela, Perry ? Ne regardez pas, je vous en supplie, mon roi !»« Mais qui a-t-il ? Parle donc !» dit Charles, essayant de voir à travers la haie de garde qui se tenait derrière lui. « Il y a, mais vous ne regarderez point, sire, n'est-ce pas ? Il y a que sur une table, ils ont fait apporter la hache avec laquelle on exécute les criminels. Cette vue est hideuse. Ne regardez pas, sire, je vous en supplie. »« Les sots, dit Charles, me croit-il donc un lâche comme eux ? Tu fais bien de m'avoir prévenu. Merci, Perret. » Et comme le moment était venu de se retirer, le roi sortit suivant ses gardes. À gauche de la porte, en effet, brillait d'un reflet sinistre celui du tapis rouge sur lequel elle était déposée, la hache blanche, aux longs manches polis par la main de l'exécuteur. Arrivé en face d'elle, Charles s'arrêta et se tournant avec un sourire. « Ah ah ! » dit-il en riant, « la hache ! Épouvantail ingénieux et bien digne de ceux qui ne savent pas ce que c'est qu'un gentilhomme !»
Tu ne me fais pas peur, hache du bourreau, ajouta-t-il en la fouettant du jonc mince et flexible qu'il tenait à la main.
Et je te frappe, en attendant patiemment et chrétiennement que tu me le rendes. Et, haussant les épaules avec un royal dédain, il continua sa route, laissant stupéfaits ceux qui s'étaient pressés en foule autour de cette table pour voir quelle figure ferait le roi en voyant cette hache qui devait séparer sa tête de son corps. « En vérité, Perry, continua le roi en s'éloignant, tous ces gens me prennent, Dieu me pardonne, pour un marchand de coton des Indes et non pour un gentilhomme accoutumé à voir briller le fer. Pense-t-il donc que je ne vaux pas bien un boucher ?» Comme il disait ces mots, il arriva à la porte. Une longue file de peuple était accourue, qui, n'ayant pu trouver place dans les tribunes, voulait au moins jouir de la fin du spectacle dont la plus intéressante partie lui était échappée. Cette multitude innombrable, dont les rangs étaient semés de physionomies menaçantes, arracha un léger soupir au roi. « Que de gens, pensa-t-il, et pas un ami dévoué !» Et comme il disait ces paroles de doute et de découragement en lui-même, une voix répondant à ces paroles dit près de lui « Salut à la majesté tombée !» Le roi se retourna vivement, les larmes aux yeux et au cœur.
C'était un vieux soldat de ses gardes qui n'avait pas voulu voir passer devant lui son roi captif sans lui rendre ce dernier hommage.
Mais au même instant, le malheureux fut presque assommé à coups de pommeau d'épée. Parmi les assommeurs, le roi reconnut le capitaine Groslot. « Hélas, dit Charles, voici un bien grand châtiment pour une bien petite faute. » Puis, le cœur serré, il continua son chemin. Mais il n'avait pas fait 100 pas qu'un furieux, se penchant entre 2 soldats de la haie, cracha au visage du roi, comme jadis un juif infâme et maudit avait craché au visage de Jésus le Nazaréen.
De grands éclats de rire et de sombres murmures retentirent tout ensemble. La foule s'écarta, se rapprocha, ondula comme une mer tempétueuse, et il sembla au roi qu'il voyait reluire, au milieu de la vague vivante, les yeux étincelants d'Athos. Charles s'essuya le visage et dit avec un triste sourire : « Le malheureux, pour une demi-couronne, il en ferait autant à son père. » Le roi ne s'était pas trompé. Il avait vu, en effet, Athos et ses amis, qui, mêlés de nouveau dans les groupes, escortaient d'un dernier regard le roi martyr. Quand le soldat salua Charles, le cœur d'Athos se fondit de joie. Et lorsque ce malheureux revint à lui, il put trouver dans sa poche 10 guinées qui avaient glissé le gentilhomme français. Mais quand le lâche insulteur cracha au visage du roi prisonnier, Athos porta la main à son poignard. Mais d'Artagnan arrêta cette main et d'une voix rauque « Attends » dit-il. Jamais d'Artagnan n'avait tutoyé ni Athos ni le comte de l'affaire. Athos s'arrêta. D'Artagnan s'appuya sur Athos, fit signe à Porthos et à Aramis de ne pas s'éloigner et vint se placer derrière l'homme au bras nu qui riait encore de son infâme plaisanterie et que félicitaient quelques autres furieux. Cet homme s'achemina vers la cité. D'Artagnan, toujours appuyé sur Athos, le suivit en faisant signe à Porthos et à Aramis de les suivre eux-mêmes. L'homme au bras nu, qui semblait un garçon boucher, descendit avec 2 compagnons par une petite rue rapide et isolée qui donnait sur la rivière. D'Artagnan avait quitté le bras d'Athos et marchait derrière l'insulteur. Arrivés près de l'eau, ces 3 hommes s'aperçurent qu'ils étaient suivis, s'arrêtèrent et, regardant insolemment les Français, échangèrent quelques lazis entre eux. « Je ne sais pas l'anglais, Athos, dit d'Artagnan, mais vous le savez, vous, et vous m'allez servir d'interprète. » Et à ces mots, doublant le pas, ils dépassèrent les 3 hommes. Mais, se retournant tout à coup, d'Artagnan marcha droit au garçon boucher, qui s'arrêta, et, le touchant à la poitrine du bout de son index, « Répétez-lui ceci, Athos, dit-il à son ami. Tu as été lâche, tu as insulté un homme sans défense, tu as souillé la face de ton roi, tu vas mourir. » Athos, pâle comme un spectre, et que d'Artagnan tenait par le poignet, traduisit ces étranges paroles à l'homme qui, voyant ses préparatifs sinistres et l'œil terrible de d'Artagnan, voulut se mettre en défense. Aramis, à ce mouvement, porta la main à son épée. « Non, pas de fer, pas de fer !» dit d'Artagnan. « Le fer est pour les gentilshommes !» Et, saisissant le boucher à la gorge, « Porthos, dit d'Artagnan, assommez-moi ce misérable d'un seul coup de poing !» Porthos leva son bras terrible, le fit siffler en l'air comme la branche d'une fronde, et la masse pesante s'abattit avec un bruit sourd sur le crâne du lâche qu'elle brisa. L'homme tomba comme tombe un bœuf sous le marteau. Ses compagnons voulurent crier, voulurent fuir, mais la voix manqua à leur bouche, et leurs jambes tremblantes se dérobèrent sous eux. « Dites-leur encore ceci, Athos, continua d'Artagnan. Ainsi mourront tous ceux qui oublient qu'un homme enchaîné est une tête sacrée, qu'un roi captif est 2 fois le représentant du Seigneur. » Athos répéta les paroles de d'Artagnan. Les 2 hommes, muets et les cheveux hérissés, regardèrent le corps de leur compagnon qui nageait dans des flots de sang noir. Puis, retrouvant à la fois la voix et les forces, ils s'enfuirent avec un cri en joignant les mains. « Justice est faite, » dit Porthos en s'essuyant le front. « Et maintenant, » dit d'Artagnan à Athos, « ne doutez point de moi et tenez-vous tranquille, je me charge de tout ce qui regarde le roi. »